partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
À l'économie en direct, Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec, comme depuis le début, Christophe et Francky à la technique. Bonjour Christophe, bonjour Francky. Bienvenue sur IDFM Radio, la radio valdoisienne et d'Île-de-France en FM 98.00, web radio 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Innovation, PUI, matériaux de construction décarbonés, partenariat, patrimoine audiovisuel, encore une émission qui s'annonce riche et variée grâce à, car à la travers la dynamique de CY, Cergy Paris Université, nous élargissons notre champ des possibles avec aujourd'hui, vendredi 29, la chance de pouvoir accueillir Pierre Vist. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors Pierre, vous êtes, je crois, devenu le porte-parole officiel de votre département à la radio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'antenne. Directeur exécutif de CY Transfer, une entité de CY Cergy Paris Université. Avec vous ce matin, nous allons découvrir en détail la mise en place des PUI, Pôle Universitaire d'Innovation, appel à projets, enjeux, objectifs et la place de CY dans la liste très sélective des établissements présélectionnés et susceptibles de bénéficier d'un financement pour déployer ou consolider un PUI. Vers 10h par téléphone, nous rejoindrons Marc Dib, fondateur et dirigeant de Neolithic, N-E-O-L-I-T-I-K, une entreprise qui fabrique des produits pour des chantiers éco-responsables et décarbonés. Là encore, une dynamique d'innovation des écosystèmes territoriaux et dont nous avons hâte d'en savoir plus. Bien présente avec nous dans le studio, je donnerai ensuite la parole à Caroline Bereckbaum. Bonjour Caroline.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être à nos côtés. Fondatrice et directrice générale de Alter Ago. On dit Ago ?
Ago.
Ago. Et co-présidente du réseau Entreprendre 95, raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, puisque votre réseau accompagne ses adhérents dans le domaine, entre autres, de l'innovation. Et vous nous en exposerez les actions et nous verrons si une synergie entre CY et Réseau Entreprendre est possible. Et à vos côtés, Michel Rosenthal. Bonjour Michel.
Bonjour Jacqueline.
Également, merci pour votre présence. Gérant de G1PC, une société créée en 2009 et spécialisée dans la numérisation des vieux supports vidéo et audio, le sujet du jour, mais pas que. Vous nous expliquerez vos passions, dont celle de sauvegarder le patrimoine audiovisuel des particuliers.
Mmh.
Bienvenue et merci à tous les quatre d'être les invités, même si Marc n'est pas dans le studio, en direct de l'économie en direct. Avant de vous donner la parole, alors j'ai un tout petit jeu. Nous allons faire un voyage à l'international, mais juste avant, je dois vous lire un communiqué de presse sur un salon santé-bien-être qui se tiendra au Dôme de Pontoise, place de l'Hôtel de Ville, demain samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Alors samedi de 10h à 18h, dimanche de 11h à 17h. L'entrée est gratuite et si vous êtes intéressé par la méditation pleine conscience, il y aura des ateliers DIY, de cosmétiques naturelles, des ateliers yoga, de King Kong, d'anti-gym, massage du visage, massage sonore, table ronde, gestion du poids et sommeil. Voilà, toutes les informations pour la réservation se retrouvent sur le site www.santéessentiel.fr et vous pourrez retrouver ces informations sur notre podcast de la radio. Et à présent, on va retrouver donc notre chroniqueur, notre chercheur et conférencier en géopolitique, Gérard Vespierre, valdoisien et auteur de notre chronique bimensuelle Décryptons le monde. Voilà, je bafouille beaucoup ce matin. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline et bonjour à tous vos auditeurs et invités.
Merci Gérard. Alors Gérard, ce matin, on va parler à nouveau de, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, on va parler de l'Ukraine, hein. Et ça fait partie de vos différents parcours, hein, sur la planète. Vous nous proposez aujourd'hui de faire le point sur cette situation en Ukraine et surtout ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines. Et donc, vous, tout d'abord, comment lisez-vous la situation actuelle sur le plan militaire et diplomatique ?
Jacqueline, vous faites bien de commencer par une analyse de la situation, car cela permet de préciser un certain nombre de paramètres. L'an dernier, 2022, on a connu une guerre en Ukraine de mouvements, un peu à l'image de la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes sont entrés, ils se sont retirés de Kiev, ensuite les Ukrainiens ont contre-attaqué, donc du mouvement. Et on est passé de cette guerre du mouvement par l'intermédiaire de l'hiver 2022-2023 à une guerre de position. Donc, et c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons déjà donc depuis pratiquement une année. Et donc il y a dans cette situation une priorité ukrainienne qui est d'isoler cette grande bande de terrain de 850 km de long, d'isoler le sud, d'isoler la Crimée, de casser le front russe en deux. L'autre grande, je dirais, élément de situation, c'est la volonté ukrainienne de garder les forces russes dispersées de façon à ne pas avoir à affronter 50 000, 70 000 hommes de l'armée russe concentrés sur un point, mais de maintenir plusieurs fronts possibles vivants et donc de disperser l'armée russe. Enfin, la situation se caractérise par la volonté toujours présente de la Russie de bombarder des installations civiles. Donc on l'a vu avec les ports d'Odessa, avec les installations sur le Danube, donc de transfert et d'exportation de grains, et bombardement des silos, de bombardement des immeubles dans un certain nombre de villes. Alors que les Ukrainiens bombardent quasiment exclusivement des objectifs militaires, et donc ça c'est vraiment très important, et donc in fine les alliés de l'Ukraine continuent leur approvisionnement et l'acheminement donc des supports militaires, chars, missiles, très progressivement, ça c'est fondamental, de façon à éviter à donner à la Russie un sentiment d'escalade dans cette guerre. Donc finalement, diplomatiquement, il n'y aura pas de réelle ouverture tant qu'un avantage militaire n'est pas acquis par l'une des parties. Pas de victoire, mais chacun cherche un avantage.
C'est ça, déjà un avantage serait formidable. Merci Gérard d'avoir clarifié cette situation à travers des points essentiels tant militaires que diplomatiques. Naturellement, on parle beaucoup de la prochaine arrivée de l'hiver, hein, vous l'avez évoqué déjà pour l'année dernière, et des conditions qui vont rendre les combats plus difficiles. Quelles perspectives dans les prochaines semaines ?
Vous avez raison, Jacqueline, d'évoquer ce changement climatique très proche. Globalement, il reste un mois avant que le terrain ne devienne très difficile et difficilement praticable pour les engins lourds, donc les chars, les engins blindés de transport de troupes. Nous allons entendre de plus en plus souvent parler de la ville de Tokmak, parce qu'elle se trouve sur le chemin de Mélitopol, et cela correspond à la stratégie évoquée il y a quelques instants de progression vers le sud de rejoindre la mer d'Azov, de couper la longue bande de 850 km en deux parties et d'isoler la Crimée. Donc là, nous allons effectivement avoir cette vision en permanence sur nos écrans et dans nos radios. Donc les Ukrainiens, deuxièmement, veulent poursuivre leur progression autour de Bakhmout, qui est devenu donc un symbole du conflit, et de façon à isoler Bakhmout et éventuellement le reprendre. Donc ce serait une étape importante, et donc poursuivre les bombardements en Crimée de façon à poursuivre cet objectif d'isoler la Crimée du reste du front russe, donc en coupant ces infrastructures de ravitaillement, le fameux pont de Kerch, et puis les isthmes donc au nord de la Crimée qui réunissent la Crimée au continent ukrainien, si je puis dire.
Et sur le plan international, Gérard, que discernez-vous comme évolution possible parmi les alliés de l'Ukraine? Je pense en particulier à Washington, à l'Europe et des pays comme la Turquie et Israël.
Eh bien, les États-Unis continueront leur accompagnement militaire et économique, au moins pour les 12 mois à venir. Je ne pense pas d'un possible changement de président, et quel qu'il soit, modifie la position stratégique des États-Unis. Il y a une différence entre les discours de politique intérieure, des discours politiciens des uns et des autres, et les positions stratégiques des États-Unis exprimées, défendues dans le long terme par le Département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain et le Pentagone. Donc il y a là des volontés de mener la situation ukrainienne le plus favorablement possible pour les Ukrainiens. Donc d'ailleurs les États-Unis ont nommé un représentant spécial pour la reconstruction, donc on pense déjà à l'après, on pense au long terme, les fameux missiles à longue portée, 300 km à TACSM, et leur nom est bien fini, iront par arriver, mais toujours, voyez, dans ce processus d'hésitation, de façon à ne pas donner aux Russes l'impression d'une escalade. Donc, ils accompagneront les missiles dont on a entendu parler, Scalp, Storm Shadow, livrés par l'Angleterre et la France. Ces derniers sont lancés d'avions. L'attaque sera lancée du sol. Donc l'Europe continuera ses approvisionnements militaires et ses projets d'aide économique. En ce qui concerne les deux pays dont vous avez parlé, la Turquie, eh bien, elle s'efforcera de maintenir une position équilibrée en parlant avec Moscou, mais en bloquant sa position géographique et l'arrivée de navires militaires russes de la Méditerranée vers la mer Noire. Et donc aussi la Turquie continuera à envoyer des drones en Ukraine, donc de fer au feu. Erdogan est très habile. Israël, enfin, eh bien, continuera, à mon avis, de s'éloigner de Moscou, parce que Israël voit effectivement la Russie en difficulté de plus en plus, et l'armée russe est en Syrie, donc aux portes d'Israël, donc ne l'oublions pas. Enfin, donc les prochaines semaines vont être décisives pour éventuellement faire pencher l'avantage vers l'Ukraine. Si rien de tel se produit, il faudra attendre la fin de l'hiver et le 25 février 2024 sera le premier jour de la troisième année de cette guerre. 3 ans. Vladimir Poutine prévoyait 3 semaines. Rien ne se sera passé comme la Russie le prévoyait. Au contraire, l'Europe est renforcée et le lien avec les États-Unis a été fortifié, à l'opposé des objectifs géopolitiques de Moscou.
Merci Gérard, merci. Vous avez été très exhaustif et clair comme à chaque fois et mes invités n'ont pas de questions à vous poser. Je leur ai fait un signe pour savoir s'ils souhaitaient intervenir. Donc merci infiniment pour ces analyses. Avant de nous quitter, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que tous vos articles et interviews télévisés sont accessibles sur votre site. www.lemondedécrypté.com, un site gratuit, il faut juste s'abonner. À la prochaine fois, Gérard.
Merci et excellente matinée à vous tous.
Merci à vous, au revoir.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, dans notre presque spécial CYU, nous parlons innovation, PUI, matériaux de construction décarbonés, partenariat, patrimoine audiovisuel, en compagnie de Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer, Cergy Paris Université, Marc Dib, fondateur et dirigeant de Néolithic, entreprise qui fabrique des produits pour des chantiers éco-responsables et décarbonés, Caroline Berek-Baum, fondatrice et directrice générale de Alterago et coprésidente du réseau Entreprendre 95 et Michel Rosenthal, gérant de G1PC, société créée en 2009 et spécialisée entre autres dans la numérisation des vieux supports vidéo et audio. Pierre Vist, alors valorisation de la recherche, transfert de technologies issues de la recherche, partenariat recherche-entreprise sont les missions de CY Transfer dont vous êtes le directeur exécutif, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, exactement.
Donc des missions en adéquation avec les besoins socio-économiques du territoire dont l'enjeu majeur se voit renforcé par une politique ambitieuse du gouvernement en faveur de l'innovation et de la création de start-up destinée à accélérer l'utilisation des résultats de la recherche au profit des Françaises et des Français dans le cadre du plan France 2030. Un renforcement du plan Deep Tech grâce à 500 millions d'euros d'investissements nouveaux a ainsi été annoncé en janvier dernier. Des mesures qui visent notamment à mettre en place à travers tout le territoire des pôles universitaires d'innovation PUI. Et c'est là où vous voulez nous expliquer le rôle de ces PUI plus précisément, Pierre.
Alors, le rôle de ces PUI, puis le contexte, en effet, qui est oui. plus ancien même que celui des
Évoqué.
Quelques années. Voilà, que
oui.
celui, bon, le lien entre innovation et l'université, il est ancien. L'innovation, c'est quoi ? Bon, vu du point de vue de l'université, c'est une recherche, entre guillemets, une expertise qui se traduit, en effet, par un impact socio-économique. Mmh. Ça fait à peu près une bonne quarantaine d'années, voire un peu plus certainement, que l'université se soucie de l'innovation et de sa traduction, de la traduction de la recherche d'un point de vue et de son impact socio-économique. Il y a eu des empilements successifs, justement, de dispositifs, de structures. Il y a 40 ans, on avait les thèses qui pouvaient se faire entre des entreprises et des laboratoires de recherche. Les thèses CIFRE, hein, Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise, qui avait été créée dans les années 80. Ensuite, il y a eu des accélérations. Hein, dans les années, à la fin des années 90, on fait en sorte que les chercheurs puissent créer des entreprises. Hein, c'est les fameuses lois Allègre du nom du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche de l'époque, dans le gouvernement Jospin, donc en 98. Hein. Avec des lois du même nom en 99. Dans les années 2000, on continue à renforcer ce lien, on crée des structures et ça aboutit. On prend de plus en plus conscience de l'importance de la recherche et de son impact. Et à peu près il y a quelques années maintenant, le président de la République actuel évoque en effet le plan France 2030, dans lequel il y a un axe très fort dédié justement à la recherche et sa traduction en termes d'impact socio-économique. Il y a des ambitions notamment sur la création d'entreprises, les fameuses start-up, la Start-up Nation, qui doit se traduire aussi par des start-up dites deep tech, c'est-à-dire des technologies de rupture qui viennent du monde, on va dire, académique, universitaire au sens très large. Voilà. Et tout ça fait que, justement, il y a des dispositifs qui existent, qui s'empilent. Il y a plein de rapports, en effet, qui sont publiés depuis à peu près 10-15 ans, de la même manière, qui parlent de l'optimisation de ces dispositifs. Et les PUI s'inscrivent complètement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les PUI, c'est à la fois répondre à deux objectifs que vous avez évoqués, à savoir développer les partenariats entre des entreprises existantes, quelle que soit la typologie d'entreprise, on aura l'occasion d'y revenir, ça va des TPE jusqu'au groupe en passant par les PME,
ouais.
Et aussi l'autre axe, plus délicats, plus peut-être avec lesquels il y a moins de, une culture peut-être moins forte, même si elle a beaucoup évolué depuis quand même ces dernières années, qui est la création d'entreprises issues de la recherche. Voilà, ce sont les deux axes forts des pôles universitaires d'innovation. Et derrière tout ça, il y a l'idée vraiment, justement, et de faire en sorte que tous les dispositifs qui ont été créés, toutes les structures qui existent, se coordonnent. C'est ça qui est derrière. Hein. C'est l'idée de coordonner tout ce qui existe, tout ce qui a été fait depuis 40 ans. Alors la tâche est compliquée, hein, parce que c'est pas évident de d'articuler tous ces dispositifs, mais l'enjeu il est là. Hein. Et derrière, in fine, bah, c'est justement pour faire en sorte que l'impact de la recherche, au sens très large, se traduise par des innovations et donc un impact socio-économique qui soit efficace. Vous évoquiez en effet l'impact in fine qui va toucher en effet chacune et chacun d'entre nous. Voilà.
Oui.
L'objectif des PU.
Oui, et j'ai noté, vous avez bien fait d'insister sur l'empilement, puisque là, je crois que l'objectif, c'est justement une gouvernance unique des initiatives, sans ajouter de strates administratives supplémentaires.
C'est exactement ça.
Il y a une vraie prise de conscience de ce côté-là.
Une prise de conscience, parce qu'en effet, tous les dispositifs que j'ai évoqués, qui existent depuis 40 ans, etc., même un petit peu plus, ils se sont en effet empilés. Alors, on a essayé de trouver des solutions qui permettaient, en effet, qu'ils s'articulent, etc., mais maintenant, il faut aller plus loin. Il y a l'idée derrière d'avoir aussi une sorte de guichet unique pour les entreprises.
Oui.
Donc un guichet unique, donc c'est pas forcément évident parce que les besoins peuvent être très différents.
Bien
est-ce qu'on
sûr.
S'adresse à des est-ce que les entreprises par exemple ont des besoins d'innovation qui sont liés à de l'expertise, est-ce que c'est des besoins par rapport à des personnels, enfin voilà, des stagiaires. Donc mais il y a cette idée là qui est en effet d'articuler en effet donc un ensemble sur un territoire, parce que ça, la notion de territoire est importante. Et donc l'État a souhaité faire émerger justement dans cette optique-là à peu près une vingtaine de pôles d'innovation, alors, qui sont adossés et qui sont portés par des universités. Le symbole est des universités ou des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà. Et c'est à eux de coordonner les dispositifs qui existent. Donc, à l'exemple sur le pôle universitaire de Cergy, on a en effet un certain nombre d'acteurs, et c'est en effet à Cergy de coordonner ces dispositifs, à l'université de coordonner ces dispositifs. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire émerger une vingtaine de pôles au niveau national, sachant qu'il y a à peu près une bonne soixantaine, voire même un peu plus, d'universités.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, les résultats de l'appel, c'est 29 pôles labellisés, oui, dont 5 en amorçage, et dont fait partie Cergy.
Donc, voilà, donc nous sommes dans...
C'est une très belle victoire.
Voilà, donc oui, alors on aurait pu faire mieux, hein, on peut toujours faire mieux, parce qu'on est toujours un peu déçu de n'être qu'en amorçage, hein,
oui.
Voilà. Mais c'est déjà très bien, hein, c'est une sorte de reconnaissance de l'effort qui est accompli sur l'innovation, donc c'est très bien. Mais l'idée vraiment, c'est justement d'essayer dans cette logique justement de coordination d'un certain nombre d'acteurs et de dispositifs, voilà.
Et alors j'ai pu voir que la création de ces pôles s'appuie sur une logique d'examen et non de concours. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est-à-dire que ces pôles s'inscrivent dans les appels à projets de France 2030, et la logique de France 2030, ça a toujours été en effet une logique de concours. C'est-à-dire qu'en effet, depuis à peu près... une bonne dizaine d'années, l'État a souhaité justement lancer des appels à projets structurants. Donc c'était le grand emprunt tel qu'on l'avait appelé dans la présidence de Nicolas Sarkozy, ça se traduit par le plan France 2030, etc. Donc l'idée c'était justement d'être dans une compétition entre guillemets saine, hein, mais d'être dans vraiment de faire en sorte que justement des gens proposent des choses, et en effet on choisit ceux qui répondent le mieux. Voilà. Donc là, c'était un tout petit peu différent, puisque l'idée n'est en effet, une fois que les gens étaient présélectionnés, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé, puisque il y a eu deux phases dans cet appel. Il y a eu un appel, donc l'appel a été ouvert en 2022, sachant qu'il y avait eu des expérimentations qui avaient été lancées donc en 2021, avec 5 pôles qui ont fait office de testeurs. Bon, il y en a eu à la Sorbonne, il y en a eu à Montpellier, il y en a eu en Normandie, à Clermont-Ferrand, vraiment. Et donc après, l'État s'est dit, on va essayer justement sur la base de cette première expérience, de ce premier retour, lancer un appel. Donc c'est là où en effet ils ont lancé un appel qui était assez ouvert, et il y a eu en effet une première phase de présélection qui a permis de présélectionner en effet une trentaine de pôles, et donc en effet le passage entre la présélection et la sélection n'a pas été en effet un concours, mais a été plutôt un examen. Même si en effet il y a eu des différences, puisqu'il y a eu 5 pôles dont nous faisons partie qui ont été en amorçage. Voilà.
Très bien. Donc les objectifs hein, de ces PUI, c'est de permettre de développer derrière chaque découverte scientifique le réflexe de l'innovation et puis d'encourager la prise de risque.
Alors la prise de risque, oui, pour les chercheurs s'ils créeront une entreprise, mais c'est pas la solution, c'est pas la tâche la plus aisée. Mmh. Hein. Les objectifs, en effet, sont ambitieux hein, en termes de création d'entreprise par les chercheurs. Déjà, un, les chercheurs ne peuvent pas porter seuls une création d'entreprise.
Mmh, bien sûr.
Hein, il faut qu'ils soient accompagnés. Hein, c'est une équipe qui est derrière, mais la coprésidente de CY, donc vous connaissez ces sujets-là bien mieux que moi. Donc il y a une notion d'équipe qui est derrière, et donc c'est l'objectif du PUI, en effet, de mettre un certain nombre d'actions sur les différents champs, donc sur le champ des partenariats, pour faire en sorte que les liens entre les entreprises existantes et l'université et les acteurs, en effet, qui sont dans le PUI, soient les plus développés possibles, donc avec tout un tas de dispositifs. De la même manière, il y a un axe du PUI qui est dédié, en effet, à la création d'entreprises issues de la recherche, et faire en sorte, justement, notamment un accompagnement économique autour du chercheur pour constituer des équipes. Donc là, ça se fait en lien, par exemple, avec l'ESSEC, hein, qui évidemment, a tout un vivier d'étudiants, évidemment, mais pas que d'étudiants, hein, tout un réseau, évidemment, qui peut permettre, justement, de constituer des équipes pour accompagner en effet des technologies ou des savoirs qui peuvent se concrétiser par des créations d'entreprises. Voilà, mais c'est qu'un des aspects. Hein. Les indicateurs d'ailleurs du PUI insistent à la fois, c'est pour ça que je disais, il y a deux grands axes. Il y a celui de la création d'entreprises parce qu'en effet c'est un des objectifs qui avait été annoncé par l'État, notamment dans cette logique de Startup Nation, de technologie de rupture, de Startup Deep Tech, etc. Mais il y a tout l'aspect, en effet, des partenariats avec les entreprises. Donc il y a différentes voies de valorisation de la recherche hein, qui passent par la création d'entreprises, mais aussi par d'autres canaux.
Est-ce que chacun de ces pôles qui va être défini va avoir une spécificité dans la recherche et dans l'innovation? Bon, je pense, on n'arrête pas de parler du changement climatique, hein, par exemple. Est-ce qu'une université va se polariser sur des éléments particuliers ou ça va être une recherche comme ça, éclectique, chez tout le monde?
Alors, on va trouver des problématiques qui vont être communes. On va avoir des. Alors, il y a des problématiques qui sont communes dans le rapprochement entre le monde socio-économique et la recherche.
Oui.
Donc, typiquement, c'est ce que j'évoquais là. Comment faire en sorte que les entreprises, enfin que l'université, fasse mieux connaître, en effet, son expertise en direction des entreprises. Donc, ça se traduit par des actions. D'un point de vue thématique. Certains accents sont mis. Typiquement, par exemple, en effet, à CYCRG Paris Université, on a mis l'accent sur... Alors, bien entendu, le fait que nous ayons le CEREMA dans nos membres fondateurs.
Oui.
Donc, il y a un centre de recherche appliqué historiquement, qui vient du ministère de l'Équipement, etc. Donc, il y a un centre de recherche appliqué dans le domaine des infrastructures, du bâtiment, etc. Donc, bien évidemment, les problématiques environnementales au sens très large, de transition écologique pour le bâtiment, pour la mobilité, etc., sont évidemment au cœur des préoccupations et des sujets. Nous avons mis à l'accent aussi au niveau de CERJ sur les sciences humaines et sociales.
Oui.
Tout simplement parce que on a la moitié de nos enseignants-chercheurs qui sont sur ce champ-là. Et c'est un champ qui est insuffisamment exploité, seul, j'allais dire, hein. Mais aussi en adossement avec des problématiques technologiques, typiquement sur des aspects d'acceptabilité en termes sur les transitions environnementales, par exemple. Voilà. Donc on peut très bien imaginer greffer ou adosser une expertise en sciences humaines et sociales sur un champ technologique. Voilà. Donc, mais la plupart des universités ou des établissements qui ont répondu au PUI se sont positionnés dans une logique assez globale. Elles ont d'un point de vue thématique. Voilà. Après, bien évidemment, elles ont tenu compte aussi de leurs points forts. Mais la problématique qui est commune, c'est vraiment de développer et de mettre en place des outils qui vont permettre de faire en sorte que l'impact de la recherche soit le plus fort possible.
Bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, le lien entre le PUI et les acteurs des territoire est très fort, hein, puisque ça se voit à différentes échelles. Donc, je vous laisse en parler.
Alors, la notion de territoire est à comprendre. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique, donc à destination des acteurs socio-économiques. Bien évidemment, on regarde les acteurs qui sont à proximité. Donc, dans nos actions, notamment sur notre territoire qui est le nôtre, hein, qui est celui de la communauté d'agglomération de Cergy, le Val d'Oise, l'Île-de-France, on a mis en place un certain nombre d'actions qui vont faire en sorte justement que nous soyons beaucoup plus aptes à transférer, à favoriser ces échanges avec les entreprises évidemment du territoire. Donc il y a des partenaires en effet, donc dans les PUI il y a des fondateurs. On les a évoqués, hein, donc j'en ai cité un, le CEREMA, il y a le CNRS, bien entendu, qui est un organisme national, et nous avons des laboratoires donc qui sont aussi sous tutelle des CNRS, donc c'était assez logique qu'ils le soient. Il y a la SAD, qui est une société publique d'investissement dans le domaine des technologies et dans le domaine des savoirs, qui est sur notre territoire. Et derrière, nous avons un ensemble de partenaires, on a plus d'une cinquantaine, presque une soixantaine de partenaires, qui sont des partenaires locaux, oui. Hein, au sens... de la communauté d'agglomération du Val d'Oise. Alors ça va être des entreprises, ça va être les chambres de commerce, des institutions, ça peut être des entreprises aussi, ça peut être des pôles de compétitivité, etc. Ça peut être des réseaux. Donc c'est toute cette typologie d'acteurs que l'on souhaite mettre justement associés avec nous. Et j'insiste là-dessus, nous avons des actions bien entendu qui ont été définies. Et ces actions, elles vont être mises en œuvre avec ces partenaires. Voilà. Donc il va y avoir des groupes de travail qui vont se mettre en place sur un plan opérationnel pour que ces actions se déclinent de façon concrète. Et bien évidemment, les partenaires du territoire seront associés à ces groupes de travail. Donc on est vraiment dans une démarche de co-construction,
oui.
Et d'implémentation des actions.
Une vraie synergie
exactement,
entre les
exactement,
uns et les autres.
Exactement. Ouais. Et on est dans cette logique justement de coordination pour faire en sorte justement que l'impact socio-économique de la recherche soit le plus fort possible. Voilà.
Oui, ça va permettre à beaucoup d'entreprises de... Bon, c'est ce dont nous parlons à chaque fois que vous venez. Hein, le gros avantage, c'est que la CY Transfer offre son département recherche et développement au sein d'une entreprise. Et ces entreprises vont pouvoir bénéficier de tout l'apport de recherche que vous offrez.
C'est l'objectif. Hein. Mmh. Donc, l'objectif du PUI, c'est vraiment de... Alors, on est une structure récente. Hein, donc, bien entendu, les collaborations avec l'université et les entreprises ont commencé depuis longtemps.
Oui.
Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus efficace, plus visible, parce que souvent, les reproches qui sont adressés au monde universitaire sont à peu près toujours les mêmes. Hein. Les entreprises ont du mal, en effet, à trouver une information. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, il y a un gros travail, en effet, de communication à proximité. Donc d'être présent donc dans des événements en lien justement avec les partenaires, avec les institutionnels, etc., pour se rapprocher des entreprises, donc à travers des événements, à travers des outils numériques typiquement pour être beaucoup plus visible, hein, typiquement avec des sites internet qui soient qui présentent de façon claire toute notre offre d'expertise, etc. Donc ces deux aspects, et puis bien entendu s'améliorer aussi dans nos process, c'est-à-dire être beaucoup plus efficace, plus clair aussi dans la façon dont on peut collaborer avec l'université. Parce que ça, c'est un autre reproche qui est adressé constamment à l'université, au-delà de l'aspect visibilité. Mmh. C'est le fait que nous ne soyons pas aussi réactifs que nous devrions l'être. Alors, il y a des contraintes aussi qu'il faut tenir compte.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que nous avons des enseignants-chercheurs qui ont évidemment une activité de recherche, d'enseignement. Donc, la partie innovation fait partie. La valorisation est dans nos missions. Hein. C'est dans la mission de l'université, au-delà de la recherche et de la formation, s'inscrit dans les textes là aussi depuis très longtemps. Mais il n'empêche que ça vient s'ajouter ou se greffer à tout ça. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à être beaucoup plus efficace,
oui,
beaucoup plus efficient,
plus souple,
voilà, plus souple.
Hein, voilà. Oui, oui, oui. Donc, vous pensez que ces PUI vont favoriser une plus grande rapidité dans la recherche?
Ben, en tout cas, dans les actions les PUI ont des indicateurs, ont des objectifs à tenir.
Oui.
Qui sont importants. Et dans ces objectifs, regardez ce matin, nous avons en effet, par exemple, des délais de contractualisation avec les entreprises.
D'accord.
Donc ça veut dire, en effet,
oui,
que dans nos indicateurs, qui conditionnent l'aide que nous allons recevoir de la part de l'État dans une deuxième phase, eh bien, il y a les délais de contractualisation. Donc, en effet, on peut espérer, mais toutes les actions que nous mettons en place devraient contribuer justement à faire en sorte que les processus soient meilleurs et donc, en effet, que nous puissions avoir beaucoup plus de liens avec le monde socio-économique.
C'est ça. Donc, en conclusion, indépendamment du financement et du label, le PUI permettra de donner des moyens pour réaliser la feuille de route de CY Transfer.
Alors, ce sont des moyens essentiellement. Donc, ce sont des moyens pour couvrir, en effet, donc des moyens humains, bien sûr, notamment pour être pour faire de la prospection des sélections des entreprises. Alors c'est une activité que nous avons commencé à CY Transfer depuis à peu près un an maintenant, et puis également des moyens pour accompagner en effet les chercheurs dans le développement de leur technologie sur des champs qui ne sont pas couverts. On est vraiment dans une idée de complémentarité, j'insiste là-dessus, hein, vraiment par rapport à des dispositifs existants, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà des dispositifs qui existent, et l'idée c'est vraiment de mettre des moyens pour coordonner, pour améliorer ce qui mérite de l'être, pour compléter ce qui ne l'est pas encore. Voilà, donc on est vraiment dans une logique vraiment d'optimisation, hein, pour faire en sorte que l'impact justement de la recherche soit la plus forte possible sur le monde socio-économique.
C'est ça, une feuille de route qui avait été réfléchie en amont du PUI précisément.
Oui, tout à fait, oui, bien entendu. Le PUI, évidemment, la feuille de route avait été réfléchie en amont du PUI. Le PUI a permis de clarifier certaines choses. Les retours que nous avons eus aussi, hein, de la part du jury, permettent aussi d'orienter, enfin, ou les choix que nous sommes obligés de faire parce qu'on a des financements qui sont à tel niveau nous obligent à mettre des priorités. Mais ces priorités, bien entendu, sont complètement en cohérence avec notre mission qui est en effet de faire en sorte que la recherche se traduise en innovation, voilà, et en impact pour le monde socio-économique.
Bon, en tout cas, pour nos prochaines émissions, c'est une affaire à suivre, hein, ces PUI, absolument. Pierre Vist, vous l'avez évoqué un petit peu, mais je vais peut-être vous donner l'occasion de faire une annonce, puisque vous avez parlé des ressources humaines, hein, avec une expérience des laboratoires de recherche chez les entreprises. Vous dites que les profils sont très difficiles à trouver. Vous avez une annonce à faire, vous êtes en recherche actuellement.
Alors, on est en recherche, oui, mais c'est une problématique plus globale. C'est-à-dire que la problématique plus globale des gens qui sont dans le domaine des structures qui sont en charge du transfert et l'innovation dans l'université, c'est de trouver des profils qui connaissent à la fois le monde académique et qui ait une certaine appétence, ou en tout cas une connaissance également, des acteurs économiques. Donc ce sont des profils qui ne sont pas forcément évidents à trouver. C'est une problématique qui est commune à toutes les structures de transfert de technologie. Et en effet, si on est toujours en recherche, à l'échelle bien entendu de l'université, mais plus largement en France, hein, c'est une problématique qui existe depuis très longtemps, qui est de trouver en effet des gens qui ont à la fois une connaissance du monde de la recherche, qui soit capable de parler avec des chercheurs et en même temps capable de parler avec des entreprises. Et ce sont des profils qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Voilà. Et c'est une problématique de fond.
Ce que vous faites très bien aujourd'hui. Voilà, donc toujours développer, renforcer les liens avec l'entreprise, en particulier du territoire, pour contribuer au développement de leur innovation, c'est le rôle, hein, de CY Transfer. Merci Pierre Vis pour toutes ces informations et puis félicitations pour la qualification de CY parmi toutes les candidatures à ces examens de PUI. Merci.
C'est un travail collectif.
Oui. Un peu de musique avant de retrouver par téléphone Marc Dib. On marque une première pause, à tout de suite.
Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. It's unhealthy.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, focus sur l'innovation, les PUI, les matériaux de construction décarbonés, les partenariats d'entreprises et patrimoine audiovisuel avec Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer, Marc Deep, fondateur et dirigeant de Néolithique, Caroline Berek-Baum, fondatrice et directrice générale de Alterago et coprésidente du réseau Entreprendre 95, Michel Rosenthal, gérant de G1PC, spécialisé dans la numérisation des vieux supports vidéo et audio. Je vais parler trop vite et je bafouille. Et c'est l'heure de rejoindre par téléphone Marc Deep, fondateur et dirigeant de Néolithique. Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté d'être au rendez-vous. Marc, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs et auditrices.
Oui, bah merci à vous de m'accueillir dans votre émission. Donc je suis Marc Deep, le fondateur de Néolithique, et chez Néolithique, on fabrique un matériau de construction innovant et alternatif au béton, qui est fait à 100% de matières premières recyclées, qui est 100% recyclable, qui n'utilise pas d'eau pour sa fabrication et qui permet une économie de 85% d'émissions de CO2 par rapport à la fabrication du béton.
Ça, donc c'est pour ça qu'on peut parler d'un produit décarboné. Donc le produit c'est Écolithe. Aujourd'hui c'est un produit déposé.
Alors oui, et puis c'est un produit qui est en fabrication et qui est commercialisé. Donc nous, notre savoir-faire, c'est de fabriquer ce matériau de construction. Il a plusieurs applications possibles. Le premier produit qu'on a lancé, c'est une dalle de revêtement de sol extérieur de 50 par 50, donc comme les dalles que vous connaissez en béton ou en pierre, et qui est à usage plutôt voirie, espace urbain, terrasse, soit terrasse, voirie piétonne et carrossable, je précise. Voilà, donc on a nos premiers clients, nos premières commandes, l'usine tourne, on est ravis.
Vos clients, ce sont des communes, c'est qui sont-ils?
Oui, alors il y a bien sûr les acheteurs publics. Alors c'est des choses qui sont très très longues à mettre en place très chronophages. Oui. Pour l'instant, on se concentre surtout sur les acteurs privés. Donc, ce sont à la fois les entreprises du BTP, les grands groupes que vous connaissez tous et que j'ai pas besoin de citer, les distributeurs de matériaux de construction, les promoteurs immobiliers. Puis après, il y a toute la galaxie des prescripteurs, hein, les architectes, les bureaux d'études, avec qui on essaye de pousser nos produits sur le marché.
Alors, votre formation académique, vous êtes diplômé de l'ESSEC. En 2013, j'ai vu que vous étiez menuisier, navigateur.
Oui, tout à fait. J'ai eu un parcours assez... j'ai déjà vécu plusieurs vies. Donc, en effet, tout d'abord l'école de commerce, et puis je me suis vite orienté vers d'autres aventures. Et c'est au cours de mon voyage en bateau que j'ai fait face à la pollution plastique, oui. La pollution en général, mais la pollution plastique en particulier. Et c'est là que j'ai eu envie de faire quelque chose. Donc j'ai commencé par un petit centre de recyclage très artisanal sur une île des Caraïbes. Et puis je me suis vite rendu compte que la pollution, c'est un problème de volume. Donc il faut pouvoir recycler beaucoup. Et puis il faut pouvoir surtout faire des objets durables, parce que recycler pour remettre dans le circuit des objets à très courte durée de vie, finalement, c'est assez contre-productif. Hein. Beaucoup d'énergie dépensée pour avoir des objets qui vont probablement retourner dans la mauvaise poubelle ou dans la nature.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer Néolithique. Et le secteur du bâtiment, c'était idéal. On construit pour des centaines d'années. Et puis, c'est une industrie où on traite beaucoup de volume. Mmh. Ça nous permet donc de remplir notre mission.
Il vous a fallu beaucoup de temps pour mettre au point ce matériau Écolithe.
Oui, et moi, j'ai commencé
ECOLITHE, hein, je précise.
Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé il y a assez longtemps mes premières expériences, jusqu'à trouver un mélange qui fonctionnait plutôt pas mal. Et puis après, il a fallu trouver des partenaires industriels, parce que évidemment, quand on commence avec une grosse marmite et un feu en dessous, ça a l'air de fonctionner, mais de là à industrialiser tout ça, c'est autre chose. Donc trouver des partenaires industriels, et puis ensuite monter l'entreprise, trouver les financements, parce que Néolithique, c'est une start-up industrielle, ce qui implique de gros investissements, des choses qui sont plus trop dans le goût du jour. Hein. Quand on pense start-up, on pense deux personnes sur un canapé avec un ordinateur et une idée géniale pour conquérir le monde avec une appli. L'industrie, c'est autre chose. C'est beaucoup d'investissements, un retour sur investissement dans longtemps. Et financer tout ça, c'est assez difficile. Et on a sur le plateau des personnes du réseau Entreprendre qui m'ont accompagné depuis le début, et notamment par le biais de financement. Et ça, c'est très précieux.
Oui, en effet. J'ai vu aussi que vous avez participé au programme Émergence de France Active, Île-de-France, puisque France Active, ce sont des gens qui sont partenaires aussi de la radio, donc ça me fait plaisir de les citer.
Et ben, c'était le programme Émergence et aussi un prêt participatif de France Active qui était vraiment le gros morceau. Hein. On a eu 200 000 euros au titre du Fonds Régional d'Investissement Solidaire. C'est exceptionnel parce que c'est une énorme somme qui nous a permis de nous dire ça y est, on peut vraiment y aller. Et en plus, je précise, c'est un prêt participatif qui compte comme quasi-fonds propres pour l'entreprise et donc qui permet derrière non pas de gréver la capacité d'entêtement, mais au contraire de l'alimenter. Donc c'est ça,
oxygène.
Ça paraît très précieux.
Oui. Ce nom néolithique, et puis alors j'adore la phrase « l'âge de la pierre nouvelle », c'était compliqué à trouver ou c'est plutôt facile ?
Bah, c'est toujours compliqué de trouver un nom parce que une fois qu'on a choisi le nom, c'est un peu difficile d'en changer. L'idée, c'était d'aller vers quelque chose de... Alors, c'est un petit clin d'œil au passé. Hein.
Oui.
C'est un âge où on a commencé à traiter les matières qui nous entouraient de manière un peu différente, à les travailler. Et puis, l'âge de la pierre nouvelle, en effet, bah, nous, on fabrique un nouveau matériau. Alors, on se présente comme une alternative au béton, mais on est à mi-chemin entre un matériau minéral et un matériau polymère. C'est comme une nouvelle pierre et voilà, c'est un petit clin d'œil à notre passé. Et puis... comme quoi, voilà, on s'inspire toujours des époques passées pour construire le futur.
Alors, je voudrais aussi dire que vous êtes lauréat de l'édition 2023 de la fabrique Abeille Assurance. Et puis, vous avez été lauréat de... Enfin, votre entreprise a été lauréat de l'appel à projet Serama Lab, puisque nous sommes avec Pierre Vist hein, de CY Transfer. Quelques mots sur ces lauréats ?
Alors ben, les concours qu'on a gagnés, on est toujours ravis de les gagner. C'est de la visibilité. Puis un concours, c'est toujours un petit challenge parce que on a beau avoir un projet qui est intéressant, et ben on fait face aussi, enfin on concourt contre ou du moins aux côtés d'autres projets très intéressants. Donc quand on gagne, on est assez fiers. Et puis la petite gratification financière est toujours appréciable. Et puis pour l'appel à projet du CEREMA, pareil, c'est quelque chose qui est important pour nous. On est dans les matériaux de construction, donc ça implique aussi des réglementations, ça implique tout un travail avec les collectivités et le CEREMA est un acteur de choix pour ça. Et voilà, donc on est ravis de faire partie de cet écosystème.
Et donc vous avez compris que Monsieur Vist, Pierre Vist de CY Transfer, l'objectif c'est de créer une synergie entre la recherche et les entreprises. Est-ce que vous pourriez vous être éventuellement intéressé par cette synergie ?
Bah, tout à fait. Comme je le disais, la recherche et l'innovation, c'est dans notre ADN. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on fabrique ce produit qu'on a fini d'innover. On a plein d'idées de produits à lancer. On a besoin de caractériser notre matériau de la manière la plus exhaustive possible pour trouver les prochains produits où notre matériau pourra avoir le plus de valeur ajoutée. Et tout ça, bah, ça implique forcément des partenariats avec des organismes de recherche, des laboratoires. Donc on est complètement intégré dans cette chaîne de valeur.
Très bien. Bah, écoutez, il reste plus qu'à rentrer en relation les uns les autres. Marc Dib, un de mes invités, Michel Rosenthal, veut vous poser une question. Je lui laisse vous la poser.
Oui, bonjour. C'est une question d'un simple citoyen. Grâce à ce que vous avez fabriqué, transformé donc du plastique pour faire du béton, quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir supprimer tous ces plastiques, cet océan entier de plastique ?
Alors, malheureusement, sans être trop pessimiste, j'ai envie de vous dire jamais. Parce que on a derrière nous 100 ans de plastique et de pollution plastique qui est disséminée à travers le monde. On a fait le choix d'utiliser ce matériau qui par ailleurs a des propriétés techniques exceptionnelles, hein, il s'agit pas de tout jeter, mais on a fait le choix de l'utiliser massivement. C'est quasiment le seul matériau qui ne se dégradera jamais, à part peut-être certains métaux, mais voilà, le plastique, il est là, il y sera toujours. Allez-y.
Oui, c'est vrai.
Nous on a une solution qui permet de recycler une large variété de plastiques, qui permet d'aller chercher aussi des plastiques qui sont pas acceptés par les recycleurs traditionnels. Et vous citez les plastiques qui sont dans la mer parce qu'ils sont dégradés aux UV, parce qu'ils ont des concrétions marines, etc. Donc nous on permet de créer un débouché pour ces plastiques-là. Maintenant la mission est phénoménale. Les néolithiques ne vont pas pouvoir recycler tout le plastique du monde. Enfin peut-être un jour, je l'espère. Voilà. Donc c'est une mission qui est énorme. On espère pouvoir apporter notre contribution à ça. Maintenant, se dire qu'il n'y aura plus jamais de pollution plastique, je pense que c'est illusoire, il faut être réel.
Illusion, oui. Marc Dible retourne et il faut que je donne la parole encore à deux invités, mais j'aimerais qu'on rentre en contact parce que j'aurai d'autres questions à vous poser. Si vous le souhaitez, lors d'une prochaine émission, on essaiera d'approfondir un petit peu votre justement la recherche des matériaux et puis voilà, je trouve que c'est intéressant. Là, vous avez une actualité à nous annoncer.
Alors oui, on a plusieurs actualités, donc on a donc lancé de nouveaux coloris de nos produits, et puis surtout là on commence à avoir dans le pipe commercial des grands noms de la distribution, des grands noms du bâtiment aussi avec lesquels on va faire des chantiers tests normalement d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2024. Donc on est assez fiers. Je cite pas les noms volontairement parce que
c'est pas encore
porter la poêle, mais bientôt vous devriez entendre parler de nous et on espère que ces premières références vont amener d'autres entreprises et pourquoi pas des acheteurs publics à franchir le pas et puis à essayer nos matériaux alternatifs.
Très bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis moi on essaiera de rentrer en contact à nouveau en 2024 et peut-être si vous êtes sur la région parisienne, même venir jusqu'à nous. Pourquoi
Avec
pas.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup Mardi pour cet échange. Donc que faut-il vous souhaiter ?
Eh ben de la réussite. Il faut nous souhaiter aussi que les réglementations évoluent en faveur des entreprises comme la nôtre, parce qu'aujourd'hui voilà c'est pas toujours facile pour les entreprises qui font du développement durable, qui essayent de mettre en place des pratiques vertueuses, de rester compétitives. On est encore dans un système économique où on ne pénalise pas assez ceux qui font mal, et ça va être vraiment nécessaire pour une transition efficace et rapide. Parce que on a beau faire tout bien, le critère prix est quand même quelque chose de très important. On fait de notre mieux pour avoir des prix compétitifs, mais les matériaux traditionnels sont bien en place et voilà.
Ah, c'est pas simple. Donc là, c'est plus un problème avec les élus. Alors ce genre
de toute façon, ce sont des choix politiques qui vont guider l'économie. Hein, et donc à un moment donné, il va falloir prendre son courage à deux mains et se battre un peu contre les grands lobbies pour faire de cette transition écologique une réalité.
Très bien. Merci infiniment, Marc Dib, d'avoir été au rendez-vous et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Si vous nous rejoignez maintenant, c'est dommage, mais en tout cas, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio, parce que nous venons d'avoir deux interviews très intéressantes. Aujourd'hui, nous parlons des nouveaux enjeux liés à l'innovation, les PUI, les matériaux de construction décarbonés, les partenariats d'entreprise et patrimoine audiovisuel. Caroline Berek-Baum, je vous donne la parole à présent. Alors, qui êtes-vous, Caroline ?
Alors, qui je suis ? Bon, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis là aujourd'hui pour parler du...
Non, voilà, c'est...
Lequel ?
Excusez-moi.
Alors,
j'intervenais à tort.
Je suis là pour parler du réseau Entreprendre Val-d'Oise que je co-préside avec Paul Nathan. Et j'en profite puisque on vient d'entendre Marc et on est très fiers au réseau Entreprendre Val d'Oise d'accompagner Néolithique et Marc depuis plusieurs mois. Pour ceux qui connaissent pas le réseau Entreprendre, c'est un réseau de dirigeants d'entreprise qui accompagne des nouveaux dirigeants d'entreprise ou d'autres dirigeants. Donc on finance, on accompagne, on a deux programmes. On a un programme Start qui va accompagner les créations d'entreprises. Et puis un programme Booster qui aujourd'hui dans le Val d'Oise n'est pas encore très
performant.
Connu, en tout cas. Mais on y travaille justement et c'est vrai que notre souhait c'est vraiment de s'inscrire aussi justement dans le plan France 2030 dont on parlait aussi tout à l'heure. Bon, le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui a été créé en 1986. Le but, à l'époque, c'était de créer des employeurs pour créer des emplois. On voit aujourd'hui quand même que le contexte économique s'est transformé, a changé. On a un taux de chômage qui est quand même relativement faible. Hein. Il y a toujours des personnes en recherche, mais enfin... Donc, on a de nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est effectivement d'accompagner la transformation aussi des entreprises. Donc, dans la réflexion, donc on continue évidemment au travers des programmes START d'accompagner des entreprises comme celle de marques hein, qui sont d'ailleurs bien souvent des entreprises innovantes, mais pas que. On a aussi des entreprises qui sont dans des activités beaucoup plus traditionnelles et qui sont aussi tout autant nécessaires pour nous, notre quotidien. Mais l'idée aujourd'hui, voilà, c'est vraiment aussi de pouvoir accompagner aussi, des PME, nos adhérents qui sont dirigeants de PME dans leur transformation. L'objectif étant de les retrouver, toutes ces PME, en 2030, voire même ensuite en 2050. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Pierre tout à l'heure aussi, puisque vraiment notre idée, c'est de pouvoir créer aussi des ponts entre les start-up, les PME, les grandes entreprises et effectivement le monde, pourquoi pas, de la recherche. Et donc, on a souhaité créer un programme qui permette de créer un petit écosystème autour du chef d'entreprise qui a une problématique d'innovation, qui regroupe effectivement un élève entrepreneur, pourquoi pas, en tout cas un étudiant, qui va regrouper une start-up, un dirigeant de start-up, une PME, qu'on va qualifier comme un père, en fait. Et puis, pourquoi pas un représentant grandes entreprises aussi, puisqu'on sait quand même que les grandes entreprises sont souvent clientes des PME. Les PME sont souvent les sous-traitants des grandes entreprises. Et donc, à un moment donné, il faut aussi adapter les besoins, s'adapter aux besoins des grandes entreprises. Donc voilà, c'est sûrement un peu ambitieux, mais en tout cas, dans ce programme que nous avons appelé Connect Innove, on a... Je tiens à les remercier. On a été suivis par l'agglo Roissy de Roissy Pays de France, qui nous soutient dans ce projet-là. ADP également nous suit sur ce projet-là. Et voilà. Et donc, on va commencer à y travailler.
Et puis, il ne reste plus qu'à rentrer en relation, donc en relation concrète avec CY Transfer.
Exactement. Mais on est déjà en contact avec CY. On travaille aussi beaucoup avec l'ESSEC. On a beaucoup, d'ailleurs, on accompagne beaucoup de projets aussi de jeunes entrepreneurs de l'ESSEC et de CY également. Donc il y a encore beaucoup à construire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là où on travaillait, je trouve, en tant que chef d'entreprise, je trouvais qu'on évoluait vraiment en silo, sous forme de silo. Bon, les startups d'un côté, c'est vrai que les projecteurs étaient bien souvent très orientés sur les startups qui sont effectivement créateurs de nouvelles technologies, et c'est indispensable. Néanmoins, ceux qui font le tissu économique de la France aujourd'hui, ce sont les PME. PME, ETI, c'est 51% de la valeur ajoutée. C'est quand même important aussi, à un moment donné, de pouvoir s'en occuper. Et donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'apporter des solutions en matière d'innovation, c'est d'ouvrir des perspectives au chef d'entreprise. C'est de lui montrer...
créer une réflexion pour aller plus loin.
C'est exactement ça, créer une réflexion.
Des comités, je vois gagnant-gagnant pour chaque participant, grâce à la richesse des échanges issus de la diversité des profils, c'est ce que vous venez de
dire. Exactement, une diversité des profils, d'ailleurs tant dans les générations, parce que dans le cadre du réseau Entreprendre, j'ai eu l'occasion de voir, et c'est en fait ce qui nous a un peu éclairé et nous a donné un peu cette idée, c'est de voir autour d'une table d'un club des lauréats un chef d'entreprise de PME qui approche de la retraite et des jeunes entrepreneurs qui échangent sur des thématiques diverses et variées. Et à la sortie de ces clubs, eh bien finalement, on se rend compte que tout le monde a appris des autres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a transmis son expérience, effectivement, sa vision des choses, mais les jeunes entrepreneurs aussi qui ont ouvert de nouvelles perspectives.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment passionnant et chacun y trouve son compte, en fait. Il y a une notion d'accompagnement du dirigeant sur une thématique, mais ceux qui accompagnent finalement, ils en ressortent aussi beaucoup plus riches.
Exactement. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un vrai appel que vous faites aux dirigeants de start-up, TPE, PME du Val d'Oise afin qu'ils vous rejoignent dans votre démarche.
Exactement. On a besoin aussi des uns des autres, j'ai envie de dire. On a besoin des uns des autres. On est bien conscient qu'être aujourd'hui chef d'entreprise, c'est très chronophage. Le matin, vous arrivez au boulot, vous ne savez pas trop de comment la journée va se dérouler. Donc, c'est toujours un peu difficile de se plonger un petit peu plus à long terme, de se projeter sur du long terme. Néanmoins, quand on commence à ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière, on se rend compte qu'il y a énormément de choses passionnantes et qui peuvent vraiment faire évoluer l'entreprise que l'on dirige. Donc j'encourage vraiment les chefs d'entreprise à ouvrir cette porte, justement, et puis à venir nous rejoindre. On fait aussi des déjeuners entre pairs, justement, où il y a des échanges formels, informels, sur des thématiques données. Et aujourd'hui, effectivement, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des dirigeants qui nous rejoignent pour transmettre. D'autres qui n'hésitent pas à venir nous voir s'ils ont une problématique d'innovation. Et encore une fois, l'innovation, c'est pas que de la tech, c'est aussi de l'innovation dans les process, dans la façon de...
Pierre Vist abonde dans votre sens.
Oui, ça paraît évident. On a trop restreint l'innovation à quelque chose de technologique et voire, puisqu'on parlait de start-up, à quelque chose de numérique à un moment donné. Donc l'innovation, elle passe, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les SHS sont point importante pour nous aussi, c'est qu'en effet, l'innovation, elle passe aussi par d'autres formes. Vous évoquiez les process, mais il y a toutes les innovations sociales, sociétales, etc. Donc ça en fait partie. Voilà. Donc on est à une université pluridisciplinaire, évidemment, on ne peut que partager et avoir ce point de vue. Voilà.
Sans compter les nouveaux enjeux, comme vous dites, sociaux, sociétaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui n'est pas confronté à des problèmes de recrutement, à des problèmes de turnover.
Surtout en ce moment.
Et bien justement, plutôt que d'essayer de le résoudre tout seul, parlons-en.
Alors, Caroline, que faut-il faire pour rejoindre le réseau Entreprendre ?
Que faut-il faire ? Remplir un bulletin d'adhésion. nous contacter. On est très présents aussi sur les réseaux sociaux. On a une directrice extraordinaire qui nous a rejoint début juin, qui s'appelle Marie Vautier, que je remercie d'ailleurs.
Marie-France Vautier, que j'ai rencontrée mardi.
Qui est extrêmement engagée auprès de nous. Ne pas hésiter à la contacter. Après, c'est vraiment simplissime. On vous accueille, c'est sympathique. On passe vraiment des bons moments les uns avec les autres. Et c'est très, très riche, vraiment.
À tout point de vue.
Ça donne de nouvelles visions, des nouvelles.
Alors, parmi les événements à annoncer, vous en avez deux à nous annoncer. Il y a une biennale à Saint-Étienne.
Oui, on a c'est pas forcément une fête, mais quand même, on fait un petit peu la fête. Après tout, on a le droit aussi en tant que chef d'entreprise de faire la fête. Tous les deux ans, donc le réseau Entreprendre organise un grand séminaire, qui rassemble tous les réseaux entreprendre de France et de Navarre sur différentes thématiques. Évidemment, on n'y échappe pas. Cette année, on aura l'intelligence artificielle, par exemple. Tous les sujets sur le digital, sur la transformation environnementale. Tout ce qu'on attend en matière d'environnement. Mais c'est l'occasion aussi, de sortir un peu. On parle beaucoup de territoire, mais de sortir de nos territoires aussi, d'échanger entre entreprises, de la Creuse, du Val d'Oise. Et ça aussi, c'est riche parce que de temps en temps, on sortir un petit peu du côté co-sanguin.
Ne pas rester dans le parisianisme.
C'est vraiment intéressant. Donc, au-delà de la richesse aussi de ce qu'on y trouve, vraiment, on se nourrit. C'est deux jours on se nourrit. Alors, ça a lieu à Saint-Étienne cette année, puisqu'on a à chaque fois
un lieu différent.
Accueille, Là, cette année, c'est nos amis de Saint-Étienne qui nous accueillent. On se nourrit. C'est deux jours
Très riche.
Très riche. Et est très sympa. Voilà.
Très bien.
Et la deuxième, le deuxième grand rendez-vous, alors cette fois, c'est vraiment un rendez-vous du Val d'Oise, puisque nous faisons notre soirée annuelle des lauréats, l'occasion donc de mettre en lumière tous ceux qui ont été lauréats au Réseau Entreprendre Val d'Oise. C'est l'ESSEC cette année qui nous accueille, donc on les remercie grandement. Et voilà, c'est une soirée qui aura lieu le 30 novembre, le jeudi 30 novembre, à partir de 18h. Et tous nos lauréats donc vont vous parler de leurs projets, ils vont exposer un petit peu tout ça, et puis ça se terminera sur une soirée un petit peu festive. Aussi.
Voilà, donc à bloquer dans ces agendas.
Exactement.
Le 30 novembre à l'ESSEC. Merci Caroline Bergbaum. Je vous précipite un peu, mais parce que je vais absolument donner la parole à Michel. Merci pour votre témoignage et puis cette présentation très pointue du Réseau d'Entreprendre. On aura l'occasion que vous reveniez à propos de la transmission d'entreprise et tout ça. On fera une émission. Ouais. Merci infiniment. Donc on va faire une pause musicale, mais courte, Francky, s'il vous plaît, parce que voilà.
Chanter pour se dessiner un monde. C'est pas si loin le temps où je m'en allais errer pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier ta vie dans l'ombre. Tu me regardes dans les yeux. Tu m'appelles, me réchauffe un peu, je suis bien. Mais est-ce vraiment ce que je veux? Et qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Amis, mes illusions, glorifiées derrière les murs d'une prison dorée, mais garder l'envie, vivre ma passion, c'est pas un écran de télévision. Sorti de l'ombre, je te regarde dans les yeux et je te sens si fragile dans ton château d'argile. Tu menaces, disparaît un peu, ainsi soit-il, car c'est vraiment ce que je veux.
Dommage pour Amel Beth, mais voilà, on veut donner la parole à mon quatrième invité. Je vous l'avais annoncé ce matin, programme riche et varié à l'économie en direct. Donc avec moi, Pierre Vist, directeur exécutif de CY Transfer. Nous avons écouté Marc Dib de Néolithique, Caroline Bereckbaum, coprésidente du réseau Entreprendre 95. Et là, je donne la parole donc à vous, Michel Rosenthal, donc gérant de G1PC. Michel, j'avais eu le plaisir de vous rencontrer. Alors je pensais que vous en faisiez partie, mais c'est pas le cas. On s'était rencontrés au BNI d'Argenteuil et puis on se suit sur les réseaux sociaux,
oui,
assez activement. Voilà. Donc Michel, racontez-nous votre parcours.
Eh bien, je dis souvent, ça me fait toujours rire de le dire, mais je suis un fils de pub.
faut pas que la langue fourche, hein.
Non, ça, je fais très attention. Pourquoi ? Parce que je suis un peu né dans ce
milieu. Parlez bien en face du micro, même.
Je suis né un peu dans ce milieu de l'audiovisuel. Mes parents, mon père était directeur de création à Paris, et ma mère a dessiné des storyboards. Et déjà tout petit, moi à 6 ans, j'étais sur les plateaux de tournage à Saint-Cloud. Le midi, je mangeais avec Simone Signoret à la cantine.
Ah oui,
voilà, j'ai baigné là-dedans, super. Mais c'était
oui, vous
fabuleux.
Avez eu le virus très tôt.
Très très tôt, tout petit déjà. J'ai joué même dans la pub. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées en 73. C'est moi qui joue dedans.
Ah, oui.
On peut trouver ça dans l'INA.
Ah, super.
C'est une vidéo qui tourne et où je suis dedans, je joue dedans. Et puis, en fait, mon parcours, c'est zéro étude. Et je suis rentré dans le monde de publicitaire, de la production publicitaire, d'abord comme stagiaire. Et puis, tout doucement, je suis monté jusqu'à devenir assistant mise en scène. Donc, je me suis vraiment forgé sur le terrain, en observant, en écoutant et en étant aux ordres.
C'est ça, autodidacte passionné.
Voilà, c'est ça. Mais j'étais passionné par l'image, donc j'ai bossé avec pas mal de réalisateurs connus, en publicité toujours, mais dans le domaine publicitaire, long métrage, clip, c'était assez varié. Et après, je me suis orienté vers la supervision des effets spéciaux. Donc j'ai fait mon stage chez Éclair, à Épinay.
D'accord.
Au moment où on était encore en 35 mm, parce que j'ai baigné là-dedans de 86 à 2007, et je suis devenu superviseur d'effets spéciaux numériques pour la pub télé.
Très bien.
En 2007, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. c'est quand même un métier qui est très très prenant, où on n'a plus du tout de vie. On gagne très bien sa vie, mais c'est il y a un moment, il fallait que je stoppe.
Faire un choix, oui.
Ouais. Et donc j'ai arrêté 2 ans de travailler, parce que j'étais vraiment à plat. Je me suis ressourcé en partant, en traversant une partie de l'Himalaya à pied avec des Tibétains.
D'accord.
Et en revenant, j'ai dit, je monte ma boîte. Sans études, sans rien. Et j'ai monté ma boîte. En fait, je voulais
vous
mettre...
Vous avez eu tout le chemin dans l'Himalaya pour réfléchir.
250 kilomètres entre 3006 et 5000 mètres d'altitude.
Okay.
En dormant en tente tous les jours.
D'accord, très bien.
Pas de lien téléphonique, rien. Donc c'était bien pour se ressourcer et se poser les bonnes questions. Ça m'a fait du bien. Et je suis revenu, j'ai dit, tiens, je vais regrouper tout ce que je sais faire et je vais mettre ça au service des autres. Donc, j'ai monté ma société qui fait du multimédia et du tournage de films.
Oui.
Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt le multimédia, c'est-à-dire le transfert du patrimoine audiovisuel des particuliers.
Alors, parlez-nous de cette sauvegarde du patrimoine audiovisuel.
Alors, je numérise tous les vieux supports, enfin presque tous, pas les formats professionnels de type bêta SP, bêta cam, hein, c'est un peu plus technique, mais c'est des formats anciennement de télé. Donc ça part de la fin des années 1800, donc la plaque de verre, donc les premiers procédés photographiques que je peux scanner, numériser, c'est une technique assez spéciale et un peu longue et compliquée. Après, les diapositives, les négatifs, les cassettes, VHS, HI8, mini DV, il y a eu toute une progression fin des années 80, ça a commencé à peu près globalement au VHS, c'est passé au HI8, des petites cassettes comme ça.
Oui.
On a là et du mini DV, donc les premières petites cassettes numériques, et après on est passé aux caméras numériques, donc là je transfère pas ça. Mais aussi les 33 tours, les cassettes audio, les micro cassettes des répondeurs.
Oui, carrément.
Voilà, tout ce qui est vieux. Les vieilles bandes son, donc j'ai dû m'équiper pendant des années de matériel pour pouvoir répondre à ça. Et en fait, j'ai commencé par quoi? Par moi, en fait. J'ai transféré les cassettes que j'avais fait sur ma fille, enfin ma petite famille, et j'ai commencé par là.
C'est ça. Et vous êtes et aujourd'hui, donc vous devez avoir une demande énorme.
Ouais, elle est assez importante. J'ai des sites.
Comment les gens vous connaissent, hein? Comment les gens savent-ils que vous faites ça?
Alors, j'ai 2 sites internet sur le transfert de cassettes, donc qui sont très bien référencés. Je me référence moi-même. On m'a appris. J'ai des.
Oui.
On a des gens connus dans le web, dans le Val d'Oise, qui m'ont aidé, fabriqué des sites et ils m'ont formé à savoir comment je peux être copain avec Google.
D'accord, ok.
Et donc je suis très copain avec Google et je le remercie beaucoup. Et donc on me trouve donc par le site internet en tapant transfert de cassettes, numérisation. On me trouve très facilement, n'importe quelle ville du Val d'Oise, ils me trouvent tout de suite.
Okay.
Mais ça s'étend.
Parce que vous ne devez pas être nombreux à faire ça.
On est quelques-uns.
Ah oui.
Je
ne
suis pas le seul. Il y en a sur Paris, mais j'ai des demandes. Je suis assez surpris. J'ai des demandes de jusqu'à Nice, Cannes.
Ah oui, de la France entière.
Ouais. Et même de La Réunion.
Donc, si on veut, je saute sur l'occasion, si on veut vous contacter, on peut encore, vous acceptez encore des nouveaux clients?
J'accepte tous les nouveaux clients avec plaisir. Je suis un gros travailleur et je me lève avec joie tous les matins pour travailler jusqu'au soir.
Donc, si on veut vous contacter, que faut-il faire?
Alors,
on va voir monsieur Google.
On va sur mon site qui est gimpc-multimédia.fr.
Oui.
J'ai un deuxième site qui s'appelle transfertdecassettes.fr. Mmh. On me trouve très facilement avec mon nom et mon prénom, Michel Rosenthal. Je suis un peu partout.
Très bien.
On peut aussi me retrouver, et là je tiens à remercier deux personnes que j'aime beaucoup et qui m'ont drôlement aidé. C'est la directrice du centre commercial de Taverny, Alexandra Merlin.
Ah oui, nous avons reçu et qui est formidable.
Qui est vraiment formidable et que je remercie à l'antenne vraiment chaleureusement puisqu'elle m'a accueilli au centre, elle m'a fait travailler et elle m'a fait rencontrer la directrice de Auchan, Taverny, qui s'appelle Geneviève Tari.
D'accord.
Et qui a été adorable avec moi, que j'ai rencontré à un salon effervescence grâce à Alexandra et Geneviève, donc la directrice de Auchan Taverny, m'accueille autant de fois que je veux au rayon multimédia de Auchan et j'y suis deux fois par mois le samedi entièrement pour proposer aux gens, partager les choses avec les gens et leur proposer mes services. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que moi, j'aime bien, il me faut du contact humain. Internet, tout ça, c'est très bien, je l'utilise, il faut du contact avec les gens, surtout sur les vieux supports.
Bien sûr.
J'aime bien discuter.
Alors, c'est un travail qui est assez long quand même à faire. Quels sont les délais?
Alors, oui, c'est selon les délais. Alors, pour tout ce qui est Super 8, on est très long, mais on est très bon.
Oui.
Je le dis parce que c'est vrai. C'est des clients qui me l'ont dit.
Oui,
j'ai beaucoup d'avis sur Google là-dessus. J'ai même des clients qui sont venus chez moi, qui avaient fait des tests chez mes confrères.
Mm-hmm.
Et finalement, ils m'ont tout refait faire.
Ah oui.
Donc, je suis quand même très fier de le dire parce que c'est vrai. Les délais, donc c'est minimum 2 mois pour les Super 8. Les cassettes vidéo, ça va assez vite. Je suis très, très équipé. J'ai carrément ce qu'on appelle un nodal. C'est une salle technique et je peux numériser.
Oui, vous
les cassettes 8 par 8, donc ça y va, mais je retraite tout. Les cassettes, c'est pas que numériser. Il faut aussi traiter les fichiers, faire attention à ce qu'il y a dedans, supprimer les anicroches, enlever les plans où les gens ont filmé le gazon ou l'herbe, sans faire exprès, de manière à ce que les gens retrouvent leur programme qui soit correct et qu'ils aient rien à faire dessus.
Un vrai film de bonne qualité
Donc
ils le repassent.
Court pour les cassettes, long pour le Super 8. Après, le reste, tout ce qui est... les diapositives, ça dépend du nombre. Là, j'ai eu deux projets de 5000 diapos, donc c'est beaucoup moins rapide.
Donc, vous mettez ça sur une clé USB ou un
c'est
CD?
C'est ça.
Oui.
On met ça. Alors, les CD, DVD, on ne fait plus. Pour moi, ce n'est pas écologique parce que c'est encore des supports. Donc, j'ai arrêté ça depuis très, très longtemps. Je pousse les gens à la clé USB ou j'envoie par WeTransfer ou grosfichier.com, même à l'étranger maintenant. On passe par Internet. J'essaie d'éviter tous les supports.
D'accord. Donc, vous acceptez tous les vieux supports?
J'accepte pratiquement tous les vieux. Il y en a quelques-uns que je ne fais pas, mais je ne laisse jamais tomber mes clients, même si je ne m'en occupe pas. Je les redirige vers des confrères.
Très bien.
Toujours.
Très bien. Je crois que vous avez travaillé pour des gens connus.
Ah oui, c'est vrai. J'ai bossé pour Robert Charlebois.
D'accord.
Pour sa femme. Ils ont un appartement à Paris. Ils m'ont confié des 16 mm à transférer. J'en ai un souvenir super parce que c'était les années 50 en bas de l'avenue Foch.
Oui.
C'était carrément superbe avec les voitures rondes et tout ça. J'ai bossé pour je l'ai noté, désolé, j'ai un trou de mémoire. J'ai bossé pour le Yves Régnier. Alors pas Yves Régnier, mais sa femme.
Oui.
Ça a été une découverte parce que cette dame m'a appelé. Elle habite dans le 92 et donc elle m'appelle et Karine Régnier. Bon, les Régnier, il y en a plein. Hein.
Oui.
Mais quand je suis arrivé chez elle, j'ai vu la maison, j'ai dit tiens c'est bizarre. Mais je suis arrivé, j'ai dit mais puis je vois une photo de Yves. Mais je lui dis mais vous êtes la femme d'Yves Régnier. Elle me dit mais oui. Et donc je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a donné toutes ces cassettes de vie à transférer. Et là, ça m'a fait super plaisir.
Vous pourriez même
Jean-Louis Dabadie aussi, j'ai fait sa femme.
Vous pourriez même être contacté par des musées qui pourraient avoir besoin de pièces un peu comme Lina, non?
Des pièces, tu veux dire des pièces
Non, je parle des supports peut-être numériques qui pourraient servir de témoignage. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, les grosses institutions comme ça passent par des boîtes, boîtes à
plus
Paris.
Plus importantes, Mais bon, après, c'est...
Je suis un très bon artisan, mais il y a un moment...
Tout dépend de la matière dont vous disposez et qui peut peut-être un jour intéresser un musée.
Tout à fait.
Ouais. Merci infiniment, Michel. Donc, pour vous contacter, c'est uniquement par. Il n'y a pas une adresse mail, quelque chose.
Alors, si, mon adresse mail, c'est G1PC.
Oui.
Le G, le 1, le P, le C, @orange.fr.
Très bien.
Ou via mon, et avec ça, sur Internet, vous allez retrouver toutes mes coordonnées sur mon site, il y a mes téléphones. Et je réponds à toutes les demandes.
Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez encore beaucoup de demandes. Merci en tout cas de préserver ce patrimoine audiovisuel des particuliers, parce que je crois que c'est devenu un vrai besoin hein, autour de nous. Les gens réalisent qu'ils peuvent perdre ces témoignages importants.
Et c'est ce que je dis justement. Je dis transférez votre patrimoine avant qu'il ne parte en fumée.
Oui,
c'est
oui,
vrai.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup, Michel. Merci de votre venue dans l'émission. Et puis pareil, vous pourrez revenir pour nous reparler plus de vos films et puis de votre autre activité. Merci infiniment.
Merci.
Voilà, l'économie en direct est presque terminée. Je vous laisse un petit mot de conclusion, Caroline, avant de nous quitter.
Alors,
vous avez une minute.
J'étais juste en train de me dire que Michel était vraiment gardien du passé et représentait parfaitement la thématique de notre soirée qui est entre disruption et tradition, construisons ensemble le monde de demain. Bah, il s'inscrit un petit peu entre les deux en fait. Il est le gardien du passé pour pouvoir mieux construire l'avenir.
C'est une belle conclusion. Merci Caroline. Michel, un petit mot de conclusion.
Merci pour cette conclusion, Caroline, elle me va très bien.
Merci. Pierre Vist, c'est pour vous le mot de la fin.
Écoutez, l'amateur de technique et d'histoire que je suis regarde avec grand intérêt les caméras qu'on ne voit pas à la radio, mais qui sont devant nous.
Oui.
Et c'est vrai qu'on, c'est là où on se rend compte que l'innovation, c'est un temps qui est long, qu'il y a des ruptures. Il y a des tas d'historiens qui sont intéressés à ces problématiques-là. Il y a des ruptures, il y a des continuités. Et justement, qui sont accompagnés en effet par des acteurs sociaux, par des acteurs socio-économiques et par aussi des établissements de recherche. Donc, pour la petite histoire, le MP3 est un format qui a été inventé, qui vient d'un institut de recherche allemand qui s'appelle l'Institut Fraunhofer. Voilà.
Très
donc
bien.
Tout ça, ça montre bien toutes ces connexions qu'il peut y avoir entre le monde académique et puis en effet des choses qui nous concernent un peu plus directement, y compris dans le domaine grand public. Voilà.
Complètement. Là, vous avez bien fermé la boucle entre le début de l'émission et la fin. Bravo, merci Pierre Vist pour ce mot de la fin. Voilà, donc merci à chacun d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci à chacun aussi d'offrir au territoire une telle capacité de recherche, d'accompagnement et de préservation du patrimoine. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique, même si j'étais un petit peu malmenée aujourd'hui avec les musiques aujourd'hui. Retrouvez cette émission comme bon vous semble avec son podcast sur idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mardi prochain, je vous retrouve normalement pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Donc d'ici là, bonne journée et bonne semaine.
DAB+, sur toute l'Île-de-France.